From the conference center.
Ici le centre de conférence de Temple Square, Salt Lake City. Vous allez assister à la session de la prêtrise de la 183e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Cette session est diffusée à des milliers d'églises de par le monde. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la prêtrise de jeunes adultes seuls de la région de Salt Lake City, en Utah.
President Dieter F.
Uhrdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session de la prêtrise. Chers frères, nous vous souhaitons la bienvenue à la session générale de la prêtrise de la 183e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas Monson, qui préside cette réunion, m'a demandé de diriger. Nous avons la tristesse d'annoncer la mort de Edward J. Smith, qui est décédé à son domicile jeudi 4 avril. Il avait 106 ans et avait servi comme patriarche de l'Église d'avril 1947 à octobre 1979, date à laquelle il avait reçu le statut d'émérite. Cette réunion est transmise par satellite aux détenteurs de la prêtrise en de nombreux endroits du monde. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la prêtrise de jeunes adultes seuls de la région de Salt Lake City, en Utah, sous la direction de Justin Bills, avec Clay Christensen à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Arise, O God, and shine ». Ronald Rasband, de la présidence des 70, fera ensuite la prière d'ouverture.
Thank you. Our dear, loving Heavenly Father.
Notre très cher Père céleste, bien-aimé. Cher Père, nous te remercions pour le grand privilège et l'honneur que c'est de se rassembler en tant que détenteur de la prêtrise d'Aaron et de Melchisédek à travers le monde entier. Nous sommes tellement honorés de détenir cette prêtrise de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions afin que nous puissions tous magnifier nos offices dans la prêtrise pour apporter gloire et honneur à ton Fils. Père, nous te remercions pour le prophète que nous avons et nous te demandons de bénir président Thomas S. Monson, son épouse et les conseillers bien-aimés, ainsi que les membres du Collège des Douze. Nous te prions afin que tu puisses bénir tous ceux qui détiennent cette prêtrise, des plus grands aux plus humbles, afin que nous puissions travailler à établir ton royaume dans le monde entier. Nous te demandons de bénir chaque grand-parent, grand-père, chaque père, chaque fils, afin que nous tous nous puissions exercer notre prêtrise au bénéfice de nos familles et de tous ceux qui nous entourent dans ce monde dans lequel nous vivons. Nous te prions maintenant que tu puisses nous bénir, bénir ceux qui vont participer dans cette réunion de prêtrise, afin que nous puissions écouter leurs exhortations. Non seulement que nous écoutions la parole, mais que nous puissions la mettre en pratique. Et c'est cette bénédiction que nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Le chœur va maintenant interpréter « Mon Dieu, plus près de toi ». Après ce chant, nous aurons le plaisir d'entendre Robert D. Els du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de Tad R. Callister, la présidence des 70. David L. Beck, président général des jeunes gens, nous adressera ensuite la parole. Thank you.
Mes frères, c'est un honneur d'être parmi vous, détenteurs de la prêtrise royale de Dieu. Nous vivons dans les derniers jours, en des temps difficiles. En tant que détenteurs de la prêtrise, nous avons la responsabilité de rester forts, avec le bouclier de la foi, face aux traits enflammés de l'adversaire. Nous sommes des modèles pour le monde. Nous protégeons les droits et libertés inaliénables que Dieu nous a donnés. Nous défendons nos foyers et nos familles. Pendant ma première année de secondaire, j'ai participé à mon premier match de baseball en dehors de la ville avec l'équipe du lycée. Mon père a compris que pendant le long trajet de retour en bus, j'avais été au contact d'un langage et d'un comportement qui n'étaient pas en accord avec les principes de l'Évangile. Artiste peintre de métier, il s'est assis avec moi et a dessiné un chevalier, un guerrier capable de défendre des châteaux et des royaumes. Pendant qu'il dessinait, tout en lisant les Écritures, j'ai appris comment être un fidèle détenteur de la prêtrise pour protéger et défendre le royaume de Dieu. Les paroles de l'apôtre Paul m'ont guidé. Je cite, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » Fin de citation. Mes frères, si nous sommes fidèles dans la prêtrise, Dieu nous fera don de cette armure. Nous avons besoin de cette armure. Jeunes gens, vos pères et vos grands-pères n'ont jamais eu à affronter les tentations que vous affrontez au quotidien. Vous vivez dans les derniers jours. Si votre père voulait avoir des ennuis, il devait aller les chercher. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la tentation vous trouve. Rappelez-vous-en. Satan désire vous avoir et le péché se couche à la porte. Comment résisterez-vous à ces tactiques agressives? Revêtez complètement l'armure de Dieu. Je vais vous instruire à partir d'une autre expérience de ma vie. En janvier 1982, j'ai fait un discours au cours d'une veillée sur le campus de l'Université Brigham Young à Provo, en Utah. J'ai invité les étudiants à imaginer que l'Église était d'un côté de l'estrade et que le monde était de l'autre côté, un peu moins d'un mètre. Cela représentait la très courte distance entre le monde et les principes de l'Église quand j'étais à l'université. 30 ans plus tard, j'ai expliqué devant les étudiants de cette même université que le monde s'est considérablement écarté. On ne le voit nulle part. Il est parti loin, loin de nos yeux, loin de ce bâtiment à l'autre bout du monde. Ce dont nous devons nous souvenir, nous, nos enfants et nos petits-enfants, c'est que l'Église restera la même, tandis que le monde continuera de changer, que le gouffre devient de plus en plus grand. C'est pourquoi, soyez très prudents. Si vous jugez vos actions et les principes de l'Église par rapport aux positions actuelles et à venir du monde, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas là où vous devriez être. À l'époque, je n'aurais pas pu imaginer à quel point le monde s'éloignerait de la doctrine des principes et des commandements de Dieu. Et pourtant, les principes du Christ et de son Église n'ont pas changé. Comme l'a dit le Seigneur, la vérité demeure pour toujours et à jamais. Quand nous comprenons et acceptons cela, nous sommes prêts à affronter la pression sociale, la moquerie et même la discrimination qui viendra du monde et de certaines personnes qui se disent nos amis. Nous connaissons pour la plupart quelqu'un qui dirait « Si tu veux être mon ami, tu devras accepter mes valeurs ». Un véritable ami ne nous demande pas de choisir entre l'Évangile et son amitié. Pour emprunter les paroles de Paul, je dis « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Un véritable ami nous incite à rester sur le chemin étroit et resserré. Rester sur le chemin des commandements, des ordonnances et des alliances de l'Évangile nous protège et nous prépare à accomplir l'œuvre de Dieu dans ce monde. Quand nous obéissons à la parole de sagesse, notre libre arbitre est à l'abri des dépendances comme l'alcool, la drogue et le tabac. Quand nous payons notre dîme et étudions les Écritures, sommes baptisés et confirmés, vivons dans la compagnie constante du Saint-Esprit, prenons la Sainte Cène dignement, obéissons à la loi de chasteté, quand nous préparons à recevoir la prêtrise de Melchisédek et faisons des alliances sacrées au Temple, nous sommes prêts à servir. Dans le Temple, nous sommes préparés et faisons la promesse de vivre la loi de consécration. Les jeunes hommes capables commencent à vivre cette loi en cherchant à partir en mission, en donnant une dîme des premières années de leur vie, à servir le Seigneur à plein temps. Ce sacrifice leur donne la force d'aller de l'avant vers la plus haute alliance de la vie. Le mariage et le scellement dans le Temple est la fondation d'une belle famille éternelle. En nous hâtant sur le chemin, nous amassons progressivement de la force spirituelle, la force d'exercer notre libre arbitre pour agir par nous-mêmes. Chez les jeunes gens et les jeunes filles, cette croissance est stimulée. Quand ils apprennent la doctrine et rendent témoignage grâce au nouveau programme en ligne, viens et suis-moi. De plus, exercez votre libre arbitre pour vous développer personnellement. En découvrant vos dons et vos talents, souvenez-vous que vos parents et des mentors peuvent vous aider, mais que vous devez laisser l'Esprit vous guider. Choisissez et agissez par vous-même. Soyez motivés de l'intérieur. Faites un plan pour votre vie, y compris pour vos études et votre formation professionnelle. Découvrez vos centres d'intérêt et vos compétences. Travaillez et devenez autonomes. Fixez-vous des objectifs, surmontez vos erreurs, acquérez de l'expérience et finissez ce que vous commencez. En chemin, veillez à participer aux activités familiales, de collège et d'échange. Partagez de bons moments ensemble. À travers ces expériences, vous apprendrez à vous respecter et à apprécier les dons spirituels de chacun et la nature complémentaire et éternelle des fils et des filles de Dieu. Par-dessus tout, ayez foi au Sauveur. Ne craignez point. En vivant diligemment l'Évangile, nous devenons forts dans le Seigneur. Avec sa force, nous sommes capables de rejeter l'Antéchrist qui dit « Mangez, buvez et réjouissez-vous, car Dieu vous justifiera si vous commettez un petit péché. Il n'y a pas de mal à cela, car demain nous mourrons. » Fin de citation. Dans la force du Seigneur, nous pouvons résister aux philosophies et aux credos qui nient le Sauveur et sont contraires au grand plan éternel du bonheur pour tous les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas autorisés à négocier les conditions de ce plan éternel. Souvenez-vous de Néhémie, qui était chargé de construire une muraille pour protéger Jérusalem. Certains voulaient le faire descendre et ainsi le rendre vulnérable. Mais Néhémie refusa. Il n'était pas intolérant envers les autres. Il a simplement expliqué, « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu. Parfois, nous devenons le paratonnerre et nous devons encaisser le coup pour rester fidèles aux principes de Dieu et faire son œuvre. Je témoigne que nous n'avons pas besoin d'avoir peur si nous sommes ancrés dans sa doctrine. Nous pouvons parfois être incompris, critiqués et même accusés à tort, mais nous ne sommes jamais seuls. Notre Sauveur était méprisé et abandonné des hommes. C'est un honneur sacré de pouvoir nous tenir à ses côtés. Ironie des choses, rester fort signifie parfois éviter et même fuir le monde. Le Sauveur a déclaré, « Arrière de moi, Satan !» Joseph d'Égypte a fui les tentations de la femme de Potiphar. Et Léhi a laissé Jérusalem derrière lui et a emmené sa famille dans le désert. Soyez assurés que tous les prophètes qui nous ont précédés sont restés forts à leur époque. Néphi a accompli l'œuvre remarquable du Seigneur malgré les assauts de Satan et les persécutions de Laman et Lémuel, ses frères. Abinadi a témoigné du Christ face aux soupçons, au mépris et à une mort certaine. Les 2000 jeunes guerriers ont défendu leur famille contre ceux qui méprisaient les valeurs de l'Évangile. Moroni a brandi l'étendard de la liberté pour préserver les familles et la liberté religieuse de son peuple. Samuel s'est tenu sur le mur et a prophétisé la venue du Christ, malgré les pierres et les flèches qui l'assaillaient. Joseph Smith, le prophète, a rétabli l'Évangile du Sauveur et a scellé son témoignage de son sang. Et les pionniers mormons sont restés forts face à une opposition et à des privations écrasantes et ont suivi un prophète dans leur grande marche et leur installation dans l'Ouest. Ces grands serviteurs et saints de Dieu ont pu rester forts car ils se tenaient aux côtés du Sauveur. Pensez à la fermeté montrée par le Sauveur. Jeune homme, Jésus s'est fidèlement occupé des affaires de son Père, enseignant l'Évangile aux docteurs de la loi dans le temple. Tout au long de son ministère, il a accompli l'œuvre de la prêtrise, enseigner, guérir, servir et bénir les autres. Quand c'était nécessaire, il s'est opposé hardiment au mal, allant jusqu'à purifier le temple. Il a toujours défendu la vérité, que ce soit par la parole ou par un silence plein de dignité. Quand les principaux sacrificateurs l'ont accusé devant Caïphe, Jésus a sagement et courageusement refusé de répondre aux mensonges et s'est tu. Dans le jardin de Gethsémané, notre Sauveur et Rédempteur n'a pas hésité à boire la coupe amère de l'expiation. Et sur la croix, il a de nouveau souffert pour accomplir la volonté de son Père, jusqu'à ce qu'il puisse enfin dire « Tout est accompli ». En réponse à la parfaite obéissance du Sauveur qui restait ferme, notre Père Céleste a déclaré « Voici mon Fils bien-aimé, en qui je me complais. en qui j'ai glorifié mon nom. Écoutez-le. Mes très chers frères de la prêtrise, jeunes et moins jeunes, glorifions le nom de Dieu en restant forts aux côtés de notre Sauveur. Je rends mon témoignage spécial qu'il vit et que nous sommes appelés d'un saint appel à participer à son œuvre. C'est pourquoi tenez-vous en des lieux saints et ne vous laissez pas ébranler. En restant obéissant et fort dans la doctrine de notre Dieu, nous nous tenons en des lieux saints, car sa doctrine est sacrée et ne changera pas dans les bourrasques sociales et politiques de notre époque. Je déclare, comme l'a fait l'apôtre Paul, veillez, demeurez ferme dans la foi, comportez-vous comme des hommes et soyez forts. C'est ma prière fervente pour vous, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
En 1878, mon arrière-grand-père George F. Richards avait 17 ans. Comme cela arrivait parfois à l'époque, il avait déjà été ordonné ancien. Un dimanche, sa mère gémissait de douleur. Comme son père n'était pas disponible, l'évêque et quelques frères furent invités à lui donner une bénédiction, mais elle ne fut pas soulagée. Alors, elle s'adressa à son fils George et lui demanda de lui imposer les mains. Dans son journal, il écrivit « Au milieu de mes larmes, devant la souffrance de ma mère et la tâche de donner une bénédiction, ce que je n'avais jamais encore fait, je me suis retiré dans une autre pièce pour pleurer et prier. Une fois calmé, il lui imposa les mains et lui donna une bénédiction très simple. Plus tard, il écrivit « Ma mère cessa de gémir et fut soulagée de sa souffrance alors que mes mains étaient encore sur sa tête. » Puis il nota dans son journal une remarque des plus profondes. Il écrivit qu'il avait senti que la raison pour laquelle sa mère n'avait pas été soulagée après la bénédiction faite par l'évêque ne venait pas de ce que le Seigneur avait négligé de l'honorer, mais parce qu'il avait réservé à un garçon de la faire afin de lui enseigner que la prêtrise chez un jeune est tout aussi puissante que chez un homme quand elle est exercée avec justice. Ce soir, je vais parler de ce pouvoir. Je vais parler de président de collège des diacres, mais les principes que j'évoquerai s'appliquent à tous les jeunes de la prêtrise d'Aaron et à leurs dirigeants, y compris aux présidents de collège d'instructeurs et assistants de collège des prêtres. Quand j'étais président de mission, j'ai remarqué qu'il y avait une augmentation spectaculaire de la spiritualité et de la capacité de diriger des jeunes hommes pendant leur mission. Si nous pouvions d'une manière ou d'une autre représenter ces qualités correspondant à leurs années à la prêtrise d'Aaron et en mission, cela ressemblerait sans doute à la ligne que vous voyez sur ce graphique. Je pense qu'il y a au moins trois facteurs clés qui contribuent à une progression aussi forte pendant les années de mission. 1. Nous faisons confiance à ces jeunes hommes comme jamais auparavant. 2. Nous attendons beaucoup d'eux mais avec amour. Et 3. Nous les formons encore et encore afin qu'ils accomplissent avec excellence ce qui est attendu d'eux. On pourrait à juste titre se demander, pourquoi ne pourrions-nous pas appliquer ces principes aux présidents de collège des diacres? Si cela se faisait, peut-être la progression commencerait-elle plus tôt et ressemblerait-elle à quelque chose comme cela. Je vais parler pendant un moment de la manière dont ces principes peuvent s'appliquer à un président de collège des diacres. Premièrement, la confiance. Nous pouvons confier au président de collège de diacres de grandes responsabilités. C'est bien ce que fait le Seigneur, comme le démontre sa disposition à leur donner des clés, c'est-à-dire le droit de présider et de diriger les affaires de leur collège. Comme preuve de sa confiance, nous appelons les présidents de collège de diacres par révélation, pas seulement en fonction de l'ancienneté ou de tout autre facteur similaire. Tout dirigeant dans cette église, y compris le président de collège des diacres, a le droit de savoir et devrait savoir qu'il a été appelé par révélation. Cette assurance l'aide à savoir que Dieu à la fois lui fait confiance et le soutient. Les deuxième et troisième attributs sont liés, de fortes attentes et la formation qui leur permettra de les réaliser. J'ai appris une grande leçon dans le champ de la mission. En général, les missionnaires s'élèvent ou s'abaissent au niveau de ce que le président de mission attend d'eux. Et il en va de même des présidents de collège des diacres. Si la seule chose qui est attendue d'eux est de diriger les réunions de collège et d'assister aux réunions de comité épiscopal des jeunes, alors c'est tout ce qu'ils feront. Mais vous, dirigeants, vous pouvez leur donner une vision plus grande, la vision du Seigneur. Et pourquoi cette vision est-elle si cruciale? Parce qu'une vision plus large s'accompagne d'une motivation plus grande. Le droit de recevoir la révélation est inhérent à chaque appel dans l'Église. Par conséquent, ces présidents de collège des diacres doivent savoir qu'ils ont le droit de recevoir la révélation pour recommander des conseillers, le droit de recevoir la révélation pour secourir les égarés, le droit de recevoir la révélation pour former les membres du collège à leur devoir. Un dirigeant avisé enseignera au président de collège des diacres les principes qui seront utiles pour recevoir la révélation. Il peut lui enseigner la promesse sans équivoque du Seigneur. Si tu le demandes, tu recevras révélation sur révélation. Le Seigneur donne les révélations avec beaucoup de générosité. N'a-t-il pas fait la promesse suivante à Joseph et Oliver ? Et voici, toutes les fois que tu m'as interrogé, tu as reçu des instructions de mon esprit. Il peut en être de même avec vous, président de collège des diacres. Le Seigneur vous aime et veut vous révéler sa volonté. Pouvez-vous imaginer un problème que le Seigneur ne puisse pas résoudre ? Moi non. Parce que vous avez droit à la révélation, il peut vous aider à résoudre toutes les préoccupations que vous avez en tant que président de collège, à condition que vous demandiez son aide. Vous, merveilleux dirigeant, pourriez enseigner à ce président de collège des diacres que la révélation ne remplace pas le travail et l'obligation de faire sa part. Un jour, le président Ehring a demandé à Harold Billy, « Comment puis-je obtenir la révélation ?» Le président Lee a répondu, « Si vous voulez obtenir la révélation, faites d'abord votre part. » Le dirigeant sage peut discuter avec son président de collège des diacres de la préparation spirituelle qu'il doit faire pour pouvoir recommander ses conseillers. Peut-être devra-t-il traiter des questions telles que « Qui serait un bon exemple qui édifierait les autres garçons ? Qui pourrait être sensible aux besoins de ceux qui ont des difficultés particulières ?» Pour finir, ce dirigeant avisé pourrait lui enseigner comment reconnaître la révélation quand elle vient et agir en conséquence. Nous vivons dans un monde d'action où tout va très vite et dans lequel les lumières vives et les haut-parleurs bruyants sont la norme. Mais il faut que ce jeune homme sache que c'est là le mode de fonctionnement du monde, pas celui du Seigneur. Le Sauveur est né dans l'anonymat relatif d'une étable. Il a accompli l'acte le plus magnifique et le plus incomparable de tous les temps dans un jardin discret. Et Joseph a reçu la première vision dans un bosquet retiré. Les réponses de Dieu se manifestent par un murmure doux et léger, des sentiments de paix ou de réconfort, une impulsion à faire le bien, une illumination, parfois sous la forme de minuscules semences de pensées qui, une fois qu'on les respecte et les nourrit, peuvent devenir des séquoias spirituels. Parfois, ces impressions ou pensées peuvent même vous pousser, vous, président de collège des diacres, à recommander comme conseiller un jeune homme actuellement non pratiquant ou à lui confier une tâche. Il y a des années, nous avons été, dans la présidence de Pieux, poussés à appeler un brave homme comme greffier de Pieux. À l'époque, il avait temporairement des difficultés à venir régulièrement à l'église. Nous savions cependant que s'il acceptait cet appel, il ferait un excellent travail. Nous lui avons lancé l'impression, mais il a répondu « Non, je ne pense pas pouvoir le faire ». Alors m'est venue une pensée. J'ai dit « Eh bien, je pense que le pieu de Glendale n'aura pas de greffier de pieu ». Choqué, il a répondu « Que voulez-vous dire? Il faut un greffier de pieu ». J'ai répondu « Voulez-vous que nous appelions quelqu'un d'autre comme greffier de pieux alors que le Seigneur nous a inspiré à vous appeler vous ?»« Très bien », a-t-il dit, « je vais le faire ». Et il l'a vraiment fait. De nombreux hommes, mais aussi de nombreux garçons répondront à un appel quand ils sauront que c'est le Seigneur qui les appelle et que c'est d'eux dont il a besoin. Ensuite, vous pouvez dire à ce président de collège des diacres que le Seigneur attend de lui qu'il secoure les égarés, le non-pratiquant comme le non-membre. Le Seigneur a déclaré en ces termes quelle était sa mission principale. Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu. Si une priorité du Sauveur est de secourir celui qui est égaré, si une priorité du président Monson est de faire de même comme en atteste sa vie entière, cela ne devrait-il pas également être une priorité pour chaque dirigeant, chaque président de collège des diacres de l'Église? Au cœur de notre rôle de dirigeant, au centre de notre ministère, il doit y avoir la résolution ardente, contraignante et incessante de trouver les égarés et de les ramener. Un jeune homme qui avait reçu la visite de membres de son collège a dit « Quelle surprise aujourd'hui de voir 30 personnes se présenter chez moi. Cela me donne envie d'aller à l'église maintenant. » Comment un jeune homme peut-il résister à une telle manifestation d'amour et d'attention? Je suis ravi quand j'entends les nombreuses histoires de présidents de collège des diacres qui ont acquis la vision et qui enseignent occasionnellement tout ou partie des leçons dans leurs réunions de collège. Il y a quelques semaines de cela, j'ai assisté à un cours de collège des diacres. Un garçon de 12 ans a donné une leçon d'une vingtaine de minutes sur l'expiation. Il a commencé en demandant aux autres diacres ce qu'était, à leur avis, l'expiation. Ensuite, il a lu quelques passages importants des Écritures et a posé des questions pertinentes auxquelles ils ont répondu. Voyant qu'il restait plus de temps qu'il ne restait de matière à traiter dans la leçon, il a eu la présence d'esprit, peut-être que son père l'avait-il prévenu, de demander aux dirigeants présents quelles étaient les questions qu'on leur avait posées concernant l'expiation pendant leur mission et quelles avaient été leurs réponses. Il a ensuite terminé par son témoignage. J'ai écouté avec émerveillement. Je me suis dit, je n'ai pas le souvenir d'avoir jamais eu à donner une partie importante de la leçon quand j'étais un jeune de la prêtrise d'Aaron. Nous pouvons relever la barre et la vision de ces jeunes et ils réagiront. Vous, dirigeants, c'est quand vous laissez ces présidents de collège diriger et que vous vous retirez dans les coulisses que vous les édifiez le plus. Ce n'est pas quand vous donnez de magnifiques leçons, mais quand vous les aidez à donner de magnifiques leçons. Non pas quand vous secourez les égarés, mais quand vous les aidez à le faire que vous magnifiez votre appel. Comme le dit un vieux dicton, ne meurs pas tant que ta musique est en toi. De même, je vous le dis, dirigeants adultes, ne soyez pas relevés tant que vos techniques de direction sont encore en vous. Instruisez nos jeunes en toute occasion. Enseignez-leur comment préparer un ordre du jour, comment diriger les réunions dignement et chaleureusement, comment secourir les égarés, comment préparer et donner une leçon inspirée, comment recevoir la révélation. Ce sera là la mesure de votre réussite, l'héritage de dirigeants et de spiritualité que vous laisserez implanter dans le cœur et l'esprit de ces jeunes hommes. Président de Collège des Diacres, si vous magnifiez votre appel, vous serez des instruments entre les mains de Dieu aujourd'hui même, car la prêtrise d'un garçon est tout aussi puissante que la prêtrise d'un homme quand elle est exercée avec justice. Alors, quand vous contracterez les alliances du Temple, que vous serez les missionnaires et les dirigeants de cette Église, vous saurez comment recevoir la révélation, comment secourir les égarés et comment enseigner la doctrine du royaume avec puissance et autorité. Vous serez alors devenus de jeunes d'ascendance noble. J'en rends témoignage au nom de Jésus-Christ, qui est le Sauveur et le Rédempteur du monde. Amen.
Young man of the Aaronic priesthood, you are beloved.
Jeunes gens de la prêtrise d'Aaron, vous êtes des fils bien-aimés de Dieu et une grande œuvre à vous faire accomplir. Pour accomplir cette œuvre, vous devez remplir votre devoir sacré de servir les autres. Savez-vous ce que servir veut dire? Réfléchissez à cette question pendant que je vous parle d'une jeune fille qui s'appelle Shai Johnson. Quand elle a commencé le lycée l'an dernier, Shai était victime d'un harcèlement cruel et inconsidéré. On la maltraitait, on la bousculait, on se moquait d'elle quand elle entrait en classe. Certains élèves lui jetaient même des ordures. Vous avez probablement vu, vous aussi, des gens maltraités comme cela dans votre école. Pour un trop grand nombre de gens, l'adolescence est une période de solitude et de peur. Ce n'est pas une fatalité. Heureusement pour Shai, il y avait des jeunes gens dans son école qui comprenaient ce que servir veut dire. Sa mère avait demandé au professeur de faire cesser les brimades, mais en vain. Elle a alors pris contact avec Carson Jones, un détenteur de prêtrise d'Aaron et quarterback vedette de l'équipe de football. Elle lui a demandé de l'aider à trouver qui étaient les persécuteurs. Carson a accepté d'aider. Mais en son fort intérieur, il estimait qu'il pouvait faire bien plus que de trouver les persécuteurs. L'esprit lui a murmuré qu'il devait aider Shai à se sentir aimé. Il a demandé à quelques-uns de ses coéquipiers de se joindre à lui dans ce service pour Shai. Ils l'ont invité à s'asseoir avec eux pendant le déjeuner. Ils l'ont accompagné en classe pour veiller à ce que ce soit en sécurité. Il n'est pas surprenant qu'avec des joueurs de football comme ses amis proches, plus personne ne l'ait harcelé. La saison de football a été passionnante pour l'équipe, mais même dans l'enthousiasme d'une saison sans défaite, ces jeunes gens n'ont pas oublié Shai. Ils l'ont invité à rejoindre l'équipe sur le terrain après les matchs. Elle s'est sentie aimée et appréciée. Elle s'est sentie en sécurité, elle était heureuse. L'équipe a remporté le championnat de l'État, mais quelque chose de plus important qu'un championnat de football s'est produit dans leur école. L'exemple de ces jeunes gens a motivé d'autres élèves à être plus accueillants, plus amicaux. Maintenant, ils se traitent mutuellement avec plus de gentillesse et de respect. Les médias nationaux ont découvert ce que ces jeunes gens avaient fait et ont raconté leur histoire dans tout le pays. Ce qui avait commencé comme un effort pour servir une personne inspire des milliers d'autres à faire de même. La mère de Shai appelle ces jeunes gens des anges déguisés. Carson et ses amis se hâtent de dire que Shai était bien plus une bénédiction dans leur vie que dans la sienne. Voilà ce qui arrive quand on se perd au service de son prochain. On se trouve soi-même. On change et l'on progresse comme on ne pourrait le faire autrement. Ces jeunes gens ont connu la joie de service et continuent de chercher des occasions à faire du bien à autrui. Ils sont impatients d'étendre leur service dans les mois à venir lorsqu'ils seront missionnaires à plein temps. Il y a des milliers de Shai Johnson dans le monde, des personnes qui ont besoin de ressentir l'amour de leur Père Céleste. Elles sont dans votre école, dans votre collège et même dans votre famille. Certaines viennent tout de suite à l'esprit. D'autres ont des besoins qui sont moins flagrants. Quasiment toutes les personnes que vous connaissez peuvent d'une certaine manière bénéficier de votre service. Le Seigneur compte sur vous pour leur tendre la main. La prêtrise est l'autorité que vous avez reçue. C'est l'autorité déléguée à l'homme d'exercer le ministère au nom de Dieu. La prêtrise, a dit James C. Foss, c'est l'autorité déléguée à l'homme d'exercer le ministère au nom de Dieu. Si vous aimez ses enfants, notre Père Céleste vous guidera et les anges vous aideront. Vous recevrez le pouvoir de faire du bien aux gens et de secourir des âmes. Jésus est votre exemple. Il est devenu pour être votre exemple. Servir, c'est se consacrer aux autres et les aider. Pour le dire simplement, c'est faire ce que le Seigneur ferait s'il était avec vous. Commencez chez vous. C'est là que vous pouvez accomplir le service le plus important. Vous voulez faire une expérience intéressante? La prochaine fois que votre mère vous demandera de l'aider dans la maison, dites quelque chose comme « Merci, maman, de me le demander. Ça me fait plaisir d'aider. » Puis voyez sa réaction. Certains d'entre vous devront peut-être réviser leurs connaissances en secourisme avant d'essayer, parce qu'il se peut qu'elle s'évanouisse. Quand vous l'aurez réanimée, vous remarquerez une amélioration notable dans vos relations avec elle, ainsi qu'un surcroît de l'esprit chez vous. Ce n'est qu'une façon de servir dans votre famille, il y en a plein d'autres. Vous servez quand vous dites des paroles gentilles aux membres de votre famille. Vous servez quand vous traitez vos frères et sœurs comme vos meilleurs amis. Le plus important peut-être, c'est que vous servez quand vous aidez votre père dans son devoir de dirigeant spirituel du foyer. Encouragez et accordez un soutien entier à la soirée familiale, à la prière familiale et à l'étude des Écritures en famille. Faites votre part pour veiller à ce que l'Esprit soit présent chez vous. Cela renforcera votre père dans son rôle et vous préparera à être père un jour. Si vous n'avez pas de père chez vous, votre responsabilité de servir votre famille est d'autant plus nécessaire. Vous avez aussi le devoir de servir au sein de votre collège. La prêtrise s'étend dans le monde entier. Vous êtes nombreux à répondre à l'appel du président Monson de secourir. Il y a plus de tentateurs de la prêtrise d'Aaron pratiquant aujourd'hui qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'Église. Cependant, il y en a qui ne sont pas pratiquants et qui ont besoin de vous. En juin dernier, quand une nouvelle branche a été créée à Bangalore, en Inde, le seul jeune homme présent à la réunion de prêtrise était un diacre qui s'appelait Gladwin et qui venait tout juste d'être ordonné. Gladwin, accompagné du président des jeunes gens et du président de branche, a commencé à appeler des jeunes gens nos pratiquants et leur rendre visite chez eux. Bientôt, un deuxième jeune homme, Samuel, a commencé à revenir à l'église. Chaque semaine, Gladwin et Samuel appelaient tous ceux qui n'avaient pas assisté à la réunion de collège pour leur raconter ce qu'ils avaient appris. Ils les ont aussi appelés pour leur anniversaire, où sont allés les voir. un par un. Les jeunes non pratiquants se sont liés d'amitié avec eux et ont commencé à accepter l'invitation d'aller aux activités du collège, d'assister aux réunions du collège et se sont mis à servir eux-mêmes. Aujourd'hui, tous les jeunes gens de la branche sont pratiquants dans l'Église. Les Écritures enseignent que les membres du collège de la prêtrise d'Aaron doivent siéger en conseil et s'édifier, c'est-à-dire s'instruire et se fortifier les uns les autres. On édifie quand on enseigne les vérités d'Évangile, quand on raconte des expériences spirituelles et quand on rend témoignage. Le programme d'études pour les jeunes encourage ce genre d'échange dans les réunions de collège, mais cela ne peut se produire que lorsque tous les membres du collège se sentent aimés et respectés. Les moqueries et les taquineries n'ont pas leur place dans une réunion de collège, surtout lorsque l'on s'exprime ouvertement ses sentiments. Les présidences de collège doivent prendre les devants pour veiller à ce que les réunions de collège soient un lieu sûr où tout le monde peut participer. L'apôtre Paul nous lance cette exhortation. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Les détenteurs de la prêtrise n'utilisent jamais de langage vulgaire ou grossier. Ils ne rabaissent ni ne blessent personne. Ils édifient et fortifient toujours leur prochain. C'est une manière simple, mais très efficace de servir. L'œuvre du ministère ne se limite pas aux ordonnances, aux visites au foyer, aux projets occasionnels de service. Nous sommes en permanence des hommes de la prêtrise, pas seulement le dimanche et pas seulement quand nous portons une chemise blanche et une cravate. Nous avons le devoir de servir partout où nous sommes. Servir n'est pas simplement une chose que nous faisons. Cela définit qui nous sommes. Servez chaque jour. Il y a des occasions tout autour de vous. Cherchez-les. Demandez au Seigneur de vous aider à les reconnaître. Vous découvrirez que le plus souvent, ce sont des petites actions sincères qui aident les autres à devenir disciples de Jésus-Christ. Grâce à vos efforts pour être dignes de l'Esprit, vous reconnaîtrez les pensées et les sentiments qui vous pousseront à servir. En donnant suite à ces chuchotements, vous en recevrez davantage, et les occasions et votre capacité de servir grandiront et se développeront. Mes jeunes frères, je témoigne que vous avez reçu l'autorité et le pouvoir de la magnifique prêtrise d'Aaron pour servir au nom de Dieu. Je témoigne que si vous le faites, vous serez un instrument entre ses mains pour aider les autres. Votre vie sera plus riche et aura plus de sens. Vous trouverez plus de force pour résister au mal. Vous trouverez le vrai bonheur, celui qui n'est connu que des véritables disciples de Jésus-Christ. Puissiez-vous connaître la joie d'accomplir votre devoir sacré de servir. C'est là ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen.
Le chœur et l'assemblée vont maintenant se lever et chanter « Ô vaillant guerrier d'Israël ». Après le chant, j'aurai l'honneur de m'adresser à vous. Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre Henry Behring, premier conseiller de la première présidence.
Mes chers frères et amis bien-aimés, cela me remplit de gratitude et de joie d'être avec vous, et en particulier de chanter avec vous. Je vous félicite, père et grand-père, qui êtes venus avec vos fils et petits-fils. Je vous félicite, jeunes gens, qui avez choisi d'être ici aujourd'hui. C'est l'endroit où vous devez être. J'espère que vous pouvez ressentir la fraternité qui nous unit. Et je prie pour qu'ici, parmi vos frères, vous trouviez votre place, ainsi que soutien et amitié. Parfois, nous, les hommes, nous nous identifions par des titres. Beaucoup d'entre nous en ont plusieurs, et chaque titre dit quelque chose d'important sur notre identité. Par exemple, certains titres, comme « fils »,« frère », »,« mari » et « père », décrivent notre rôle familial. D'autres, comme « docteur », »,« soldat » ou « artisan », décrivent notre métier dans le monde. D'autres encore décrivent notre poste dans l'Église. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quatre titres qui, je crois, s'appliquent à tous les détenteurs de la prêtrise dans le monde. Des titres qui peuvent nous aider à reconnaître notre rôle personnel dans le plan éternel de Dieu et notre potentiel de détenteur de la prêtrise dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Un titre qui nous définit tous, de la manière la plus fondamentale qui soit, est celui de « Fils de notre Père Céleste ». Quoi que nous fassions d'autre ici-bas, nous ne devons jamais oublier que nous sommes littéralement les enfants d'Esprit de Dieu. Nous étions ses enfants avant de venir sur terre, et nous le serons pour toujours. Cette vérité fondamentale change le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur nos frères et sœurs, et sur la vie elle-même. Malheureusement, aucun de nous n'est jamais tout à fait à la hauteur de ce que cela implique, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cela peut être décourageant parfois de savoir ce que signifie être fils de Dieu et néanmoins ne pas être à la hauteur. L'adversaire aime tirer parti de ses sentiments. Satan préférerait que vous vous définissiez par vos péchés plutôt que par votre potentiel divin. Ne l'écoutez pas. Nous avons tous vu un bébé apprendre à marcher. Il fait un petit pas et vacille. Il tombe. Est-ce que nous réprimandons cette tentative? Bien sûr que non. Quel père punirait un bébé qui trébuche? Nous encourageons, nous applaudissons, nous félicitons parce que pas après pas, l'enfant devient davantage comme ses parents. Frère, comparé à la perfection de Dieu, nous, mortels, sommes à peine plus qu'un bébé gauche et chancelant. Mais notre Père Céleste aimant veut que nous devenions davantage comme lui. Et, chers frères, cela devrait aussi être notre but éternel. Dieu comprend que nous n'y arriverons pas en un instant, mais en faisant un pas à la fois. Je ne crois pas en un Dieu qui fixerait des règles et des commandements dans le seul but d'attendre que nous échouions et qu'il puisse nous punir. Je crois en un Père Céleste aimant et plein de sollicitude, qui se réjouit de chacun de nos efforts pour nous tenir droit et aller vers lui. Même lorsque nous trébuchons, il nous exhorte à ne pas perdre courage, à ne jamais abandonner ou fuir le lieu où nous avons été affectés pour servir, mais à prendre courage, à trouver la foi et à continuer d'essayer. Notre Père Céleste guide ses enfants et envoie souvent une aide divine invisible à ceux qui désirent suivre le Sauveur. Cela nous mène au titre suivant, que nous avons tous en commun. Tous ceux qui s'efforcent sincèrement de suivre le Christ sont appelés ses disciples. Bien que nous reconnaissions qu'aucun de nous n'est parfait, nous ne nous en servons pas comme une excuse pour être moins exigeants, pour vivre en deçà de nos possibilités, pour repousser le jour de notre repentir, ou pour refuser de devenir de meilleurs disciples du Maître, plus parfaits, plus raffinés. Souvenez-vous que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours n'est pas là pour des hommes et des femmes qui sont parfaits et qui ne sont pas concernés par les tentations de la condition mortelle, mais elle est là pour des personnes exactement comme vous et moi. Elle est édifiée sur le roc de notre Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ, par l'expiation duquel nous pouvons être purifiés et devenir concitoyens de la maison de Dieu. Sans l'expiation de Jésus-Christ, la vie serait une impasse, sans espoir ni avenir. Avec l'expiation, la vie est un parcours ennoblissant et inspirant de progression et de développement qui conduit à la vie éternelle en présence de notre Père. Bien que l'expiation ait pour but de nous aider à devenir davantage comme le Christ, elle n'a pas pour but de nous rendre tous identiques. Parfois, nous confondons les différences de personnalité avec le péché. Nous pouvons même commettre l'erreur de penser que parce que quelqu'un est différent de nous, il doit nécessairement déplaire à Dieu. Ce genre de raisonnement conduit certaines personnes à croire que l'Église veut façonner tous les membres sur un moule unique et faire que chacun soit, ressente, pense et se comporte comme tout le monde. Cela contredirait le génie de Dieu qui a créé chaque homme différent de son frère, chaque fils différent de son père. Même des jumeaux identiques ne sont pas identiques dans leur personnalité et leur identité spirituelle. Cela contredit également le but de l'Église de Jésus-Christ qui reconnaît et protège le libre arbitre. Avec toutes ses conséquences importantes. Et ce, pour chacun des enfants de Dieu. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes unis dans notre témoignage de...
But we are diverse in our cultural, social and political preferences.
Diverse. L'Église prospère quand nous tirons parti de cette diversité et que nous nous encourageons mutuellement à cultiver et utiliser nos talents pour édifier et fortifier nos frères. Frères, être disciple est l'affaire de toute une vie passée à suivre le Sauveur. Sur notre chemin métaphorique de Bethléem au Golgotha, nous aurons beaucoup d'occasions d'abandonner en cours de route. Par moments, il nous semblera que le chemin requiert davantage que ce que nous aurions souhaité. Mais en homme de la prêtrise, nous devons avoir le courage de suivre notre Rédempteur, même quand notre croix nous semble trop lourde à porter. À chaque pas que nous faisons pour suivre le Fils de Dieu, souvenons-nous que nous ne sommes pas encore parfaits. Soyons des disciples fermes et constants. N'abandonnons pas. Soyons fidèles à nos alliances. Ne perdons jamais de vue notre avocat et rédempteur sur le chemin qui nous mène à lui. Un pas imparfait après l'autre. Frères, si nous sommes tous de véritables disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons porter un troisième titre, un guérisseur d'âme. Nous qui avons été ordonnés à la prêtrise de Dieu, nous sommes appelés à pratiquer l'art de la guérison. C'est notre travail d'édifier, de réparer, de fortifier, d'encourager et de guérir. Notre tâche est de suivre l'exemple du Sauveur et de tendre la main aux gens qui souffrent. Nous pleurons avec ceux qui pleurent et consolons ceux qui ont besoin de consolation. Nous pansons les plaies des affligés. Nous allons au secours des faibles, fortifions les mains languissantes et affermissons les genoux qui chancellent. En tant qu'instructeur au foyer, nous sommes des guérisseurs. En tant que dirigeant de la prêtrise, nous sommes des guérisseurs. En tant que père, fils, frère et mari, nous devons être des guérisseurs engagés et dévoués. Dans une main, nous avons une fuile d'huile consacrée pour bénir les malades. Dans l'autre, nous avons un pain pour nourrir les affamés. Et dans nos cœurs, nous portons la parole paisible de Dieu qui guérit l'âme meurtrie. C'est là notre responsabilité première et la plus importante des détenteurs de la prêtrise. Et cela s'applique aux détenteurs de la prêtrise d'Aaron et de Melchisédek. L'évangile rétabli de Jésus-Christ est une bénédiction non pas seulement pour celui qui croit, il l'est bien davantage pour celui qui le vit. C'est dans l'application des principes de l'évangile qu'une personne est bénie et que la famille est fortifiée. Nous n'avons pas seulement la bénédiction et la responsabilité de dire ce qui est bien, mais aussi de faire le bien. Le Sauveur est l'auteur de miracles. Il est le grand guérisseur. Il est notre exemple, notre lumière, même dans les moments les plus sombres, et il nous montre le bon chemin. Suivons-le, soyons à la hauteur de notre rôle, et devenons des guérisseurs en servant Dieu et notre prochain. Le quatrième titre que nous partageons tous nous ramène au premier de la liste. En tant que fils de notre Père Céleste, nous sommes héritiers de tout ce qu'il a. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Fin de citation. Réfléchissez, mes frères bien-aimés. Nous sommes co-héritiers du Christ. N'est-ce pas merveilleux? Alors, à quoi cela rime-t-il que beaucoup d'entre nous consacrent une partie si importante de ce qu'ils ont de précieux, en fait, de temps, de pensée, de moyens et d'énergie à la poursuite du prestige ou de la richesse ou à s'amuser avec des gadgets électroniques les plus récents et les plus cool? Le Seigneur nous a fait cette promesse divine. Tous ceux qui, par leur fidélité, obtiennent ces deux prêtrises et magnifient leur appel, me reçoivent, dit le Seigneur. Et celui qui me reçoit, reçoit mon Père. C'est pourquoi tout ce que mon Père a, lui sera donné. Je suis incapable d'imaginer tout ce que cette promesse implique. Mais je sais qu'elle est grandiose, qu'elle est divine, qu'elle est éternelle et qu'elle mérite tous nos efforts. Sachant cela, comment pouvons-nous ne pas nous engager de bon cœur et avec joie au service du Seigneur et de notre prochain et être à la hauteur de nos responsabilités dans la prêtrise de Dieu? Ce travail est des plus nobles et il fera appel à tous nos sens et mobilisera toutes nos capacités. Désirons-nous voir les cieux s'ouvrir et entendre les murmures du Saint-Esprit nous montrer la voie? Alors, prenons notre faucille et engageons-nous dans cette grande œuvre, dans cette cause bien plus grande que nous. Le service de Dieu et de notre prochain est quelque chose qui va nous motiver et nous transformer en quelque chose de plus grand que tout ce que nous aurions pu croire possible. Vous vous dites peut-être que l'on n'a pas besoin de vous, que vous êtes insignifiant ou indésirable, que vous n'êtes personne. Je serais sincèrement désolé si un détenteur de la prêtrise éprouvait ce genre de choses. Il ne fait aucun doute que vous n'êtes ni insignifiant ni indésirable pour notre Père Céleste. Il vous aime. Et je vous dis avec certitude que votre Église a besoin de vous. Ne savez-vous pas que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages? Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il est peut-être vrai que nous sommes faibles. Nous ne sommes peut-être ni sages ni puissants. Mais quand Dieu œuvre à travers nous, rien ni personne ne peut s'opposer à nous. C'est pour cela que l'on a besoin de vous. Vous avez votre propre contribution spéciale à apporter et Dieu peut la magnifier immensément. Votre capacité d'apporter une contribution ne dépend pas de l'appel que vous avez dans l'Église. Vos occasions de servir sont infinies. Si vous attendez sur la touche, je vous recommande d'entrer en jeu. N'attendez pas un appel en particulier pour être pleinement engagé dans l'édification du royaume de Dieu. Comme détenteur de la prêtrise, vous êtes déjà appelé à l'œuvre. Étudiez chaque jour la parole de Dieu. Priez chaque jour votre Père Céleste. Imprégnez-vous des principes de l'Évangile rétabli. Rendez grâce à Dieu et demandez-lui de vous guider. Ensuite, mettez en application ce que vous avez appris dans votre famille, premièrement, mais aussi dans toutes les situations de votre vie. Dans la symphonie du grand compositeur, vous avez votre partie à jouer, vos notes à chanter. Si vous ne le faites pas, la symphonie continuera incontestablement. Mais si vous vous levez et rejoignez le chœur, si vous permettez au pouvoir de Dieu d'œuvrer à travers vous, alors vous verrez s'ouvrir les écluses des cieux et il répandra sur vous la bénédiction en abondance. Montrez-vous à la hauteur de votre véritable potentiel de fils de Dieu et vous pourrez être une force bénéfique dans votre famille, chez vous, dans votre collectivité, dans votre pays et même dans le monde. Ce faisant, en perdant votre vie au service de votre prochain, vous progresserez et vous vous développerez jusqu'à ce que vous atteigniez la mesure de la stature parfaite du Christ. Vous serez alors prêt à hériter avec le Christ de tout ce que le Père a. Mes chers frères, mes chers amis, vous êtes importants. Vous êtes aimés. Nous avons besoin de vous. Cette œuvre est vraie. La prêtrise que vous avez la bénédiction et le privilège de détenir est bien de Dieu. Je prie pour qu'en méditant sur les nombreux titres d'un détenteur digne de la prêtrise, vous découvriez le vent divin qui souffle dans votre dos, qui vous pousse sans cesse vers le haut, vers le grand héritage que votre Père Céleste a en réserve pour vous. Je vous laisse cette bénédiction et mon témoignage au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
The Lord made it very clear.
Dès le début de cette dernière dispensation, le Seigneur a clairement précisé que nous devions porter l'Évangile au monde entier. Ce qu'il a dit aux quelques détenteurs de la prêtrise en 1831, il le dit aux nombreux détenteurs de maintenant. Quel que soit notre âge, nos compétences, notre appel dans l'Église ou notre lieu de résidence, nous sommes appelés comme un seul homme à l'aider à moissonner les âmes jusqu'à son retour. Il a dit à ses premiers ouvriers dans la vigne, « Je vous donne le commandement que chaque homme, qu'il soit ancien, prêtre, instructeur ou membre, se mette à l'œuvre de toutes ses forces, avec le travail de ses mains, pour préparer et accomplir les choses que j'ai commandées, et que votre prédication soit la voie d'avertissement, chacun à son voisin, avec douceur et humilité. Et sortez de parmi les méchants, sauvez-vous, soyez purs, vous qui portez les vases du Seigneur. » Maintenant, vous pouvez voir, membres de la prêtrise d'Aaron, que le commandement du Seigneur vous inclut. Puisque vous savez que le Seigneur prépare toujours la voie pour que vous puissiez respecter ses commandements, vous pouvez vous attendre à ce qu'il le fasse pour chacun d'entre vous. Je vais vous raconter comment il l'a fait pour un garçon qui détient maintenant l'office de prêtre dans la prêtrise d'Aaron. Il a 16 ans. Il habite dans un pays où les missionnaires sont arrivés pour la première fois il y a juste un an. Ils avaient été affectés à deux villes, mais pas à la ville où habite le garçon. Lorsqu'il était très jeune, ses parents l'ont emmené en Utah pour des raisons de sécurité. La famille était instruite et baptisée par les missionnaires. Lui n'a pas été baptisé dans l'église parce qu'il n'avait pas encore 8 ans. Ses parents étaient tués dans un accident. Alors sa grand-mère l'a rapatrié chez lui, de l'autre côté de l'océan, dans la ville où il est né. En mars, il y a juste un an, il marchait dans la rue. Quand il a senti qu'il devait parler à une femme qu'il ne connaissait pas, il a parlé avec elle dans l'anglais dont il se souvenait encore. C'était une infirmière envoyée par le président de mission dans sa ville afin de trouver un logement et des soins médicaux pour les missionnaires qui allaient bientôt y être affectés. En parlant, ils se sont liés d'amitié. Quand elle est retournée au siège de la mission, elle a parlé de lui aux missionnaires. Les deux premiers missionnaires sont arrivés en septembre 2012. L'orphelin a été leur premier baptême dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. En mars de cette année, il était membre depuis 4 mois. Il avait été ordonné prêtre dans la prêtrise d'Aaron et pouvait donc baptiser le second converti à l'Église. Il est le premier pionnier de la prêtrise à rassembler d'autres enfants de notre Père Céleste pour établir l'Église dans une ville d'environ 130 000 habitants. Le dimanche de Pâques, 31 mars 2013, le nombre de membres de l'Église dans cette ville était passé à 6. Il était le seul membre local à participer à la réunion ce dimanche. La veille, il s'était blessé au genou, mais il était déterminé à être présent. Il avait prié pour être capable de marcher jusqu'à l'église. Il a pris la Sainte Cène avec 4 jeunes frères missionnaires et un couple missionnaire. C'était là toute l'assemblée. Cette histoire ne paraît pas bien extraordinaire, à moins d'y discerner la main de Dieu dans l'édification de son royaume. Je l'ai vu de nombreuses fois. Je l'ai vu au Nouveau-Mexique quand j'étais jeune. Depuis des générations, les prophètes nous disent que nous devons aider les missionnaires à trouver et à instruire les personnes qui ont le cœur honnête et ensuite aimer celles qui entrent dans le royaume. J'ai été personnellement témoin de ce que peuvent faire des dirigeants de la prêtrise et des membres fidèles. En 1955, je suis devenu officier dans l'armée de l'air des États-Unis. L'évêque de ma paroisse m'a donné une bénédiction juste avant que je parte pour mon premier poste, qui se trouvait à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Dans sa bénédiction, il a dit que mon temps dans l'armée de l'air serait du service missionnaire. Je suis arrivé à l'église mon premier dimanche, à la première branche d'Albuquerque. Un homme s'est avancé vers moi, s'est présenté comme étant le président de district et m'a dit qu'il allait m'appeler commissionnaire de district. Je lui ai dit que je ne serais là que pour quelques semaines de formation et qu'ensuite je serais affectué ailleurs dans le monde. Il a dit, « Cela, j'en sais rien, mais nous devons vous appeler à servir. » Au milieu de ma formation militaire, parce qu'il semblait être un hasard, j'ai été choisi parmi des centaines d'officiers en formation pour prendre au quartier général la place d'un officier qui était mort subitement. Donc, pendant les deux années que j'ai passées là, j'ai travaillé dans mon bureau. La plupart des soirs et tous les week-ends, j'ai enseigné l'évangile de Jésus-Christ aux personnes que les membres nous présentaient. Mes collègues et moi, mais moi-même, faisions en moyenne plus de 40 heures par mois de service missionnaire sans devoir une seule fois frapper aux portes pour trouver une personne à instruire. Grâce aux membres, nous avions tellement de pain sur la planche que nous instruisions souvent deux familles en un soir. J'ai été personnellement témoin du pouvoir et de la bénédiction de la demande répétée des prophètes que chaque membre soit un missionnaire. Le dimanche précédent mon départ d'Albuquerque, le premier pieu était organisé dans cette ville. Il y a maintenant là un temple sacré, une maison du Seigneur, dans une ville où nous nous réunissions autrefois dans une église avec des saints qui nous amenaient leurs amis pour que nous les instruisions et qu'ils ressentent le témoignage de l'Esprit. Ils se sentaient bienvenus dans la vraie église du Seigneur. Ensuite, je l'ai vu en Nouvelle-Angleterre pendant mes études. J'ai été appelé comme conseiller d'un président de district formidable. Quelqu'un qui, au départ, ne s'intéresse absolument pas à l'Église et qui est devenu un homme d'une grande puissance spirituelle. Son instructeur au foyer l'aimait suffisamment pour pas tenir compte de son cigare et voir ce que Dieu pouvait voir en lui. Le président de district et moi-même sommes allés par monts et par vaux pour rendre visite aux minuscules branches éparpillées dans les États du Massachusetts et de Rhode Island pour édifier et bénir le royaume de Dieu. Pendant mes années de service auprès de ce grand dirigeant, j'ai regardé les gens attirer leurs amis à l'Église par leur exemple et leur invitation à écouter les missionnaires. De mon point de vue, la croissance de ces branches paraissait lente et incertaine. Mais le dimanche de mon départ, 5 ans plus tard, deux apôtres sont venus faire de notre district un pieu dans l'église de Longfellow Park à Cambridge. Des années plus tard, j'y suis retourné et dirigé une conférence de pieux. Le président de pieux m'a emmené voir une colline rocailleuse à Belmont. Il m'a dit que ce serait l'endroit idéal pour un temple de Dieu. Il y en a un là-bas maintenant. Quand je le contemple, je me souviens des membres humbles aux côtés desquels j'étais assis dans de minuscules branches, des voisins qu'ils invitaient et des missionnaires qui les instruisaient. Il y a un nouveau diacre dans cette réunion ici ce soir. J'étais avec lui le même dimanche de Pâques, où le prêtre dont j'ai parlé tout à l'heure est allé à pied à cette réunion qui ne comptait qu'un membre. Le diacre a eu un grand sourire quand son père lui a dit qu'il viendrait avec lui à cette réunion de prêtrise ce soir. Son père a été un grand missionnaire dans la même mission dont son grand-père, où son père avait été le président. J'ai vu le guide missionnaire de 1937 de son arrière-grand-père. Son héritage de conversion à l'Église remonte loin. J'ai parlé donc à l'évêque de ce diacre pour découvrir à quelle expérience il pouvait s'attendre en s'acquittant de la responsabilité de la prêtrise d'œuvrer au rassemblement des âmes pour le Seigneur. L'évêque m'a décrit avec enthousiasme la manière dont le dirigeant de mission de paroisse suivait les progrès des amis de l'Église. Il obtient ses renseignements grâce à des contacts réguliers avec les missionnaires. L'évêque et son conseil de paroisse discutent des progrès de chaque ami de l'Église. Ils décident de ce qu'ils peuvent faire pour chaque personne et sa famille afin de les aider à se faire des amis avant le baptême, de les inclure dans les activités et de soutenir ceux qui se font baptiser. Il a dit que les missionnaires ont parfois suffisamment de rendez-vous d'enseignement pour enrôler les détenteurs de la prêtrise d'Aaron comme collègues. Le plan de mission de paroisse comprend les buts des collèges d'inviter les personnes qu'ils connaissent à rencontrer les missionnaires. Même la présidence du collège des diacres est invitée à se fixer des buts et à faire des plans pour que les membres de son collège aient à amener les personnes qu'ils connaissent dans le royaume de Dieu. On pourrait croire que les diacres d'une paroisse forte et le prêtre, le nouveau prêtre converti, qui appartient à un nouveau minuscule groupe de membres, ont peu de choses en commun avec entre eux ou avec vous. Et vous ne voyez peut-être pas beaucoup de ressemblances entre votre expérience d'édification de l'Église et ce que j'ai perçu comme étant des miracles au Nouveau-Mexique et en Nouvelle-Angleterre. Mais il y a une façon dont nous pouvons être un dans notre responsabilité dans la prêtrise. Nous nous sanctifions personnellement et nous nous acquittons de nos devoirs individuels par rapport au commandement de porter l'Évangile à tous les enfants de notre Père Céleste. Nous vivons des expériences communes dans la manière dont le Seigneur édifie son royaume sur la terre. Dans son Église, avec tous les outils merveilleux, toute l'organisation merveilleuse qui nous ont été donnés, il reste une vérité fondamentale enseignée par les prophètes, à savoir que nous devons nous acquitter de notre mission de la prêtrise dans le domaine de l'œuvre missionnaire. Lors de la conférence générale d'avril 1959, le président Mackay enseignait ce principe, comme l'ont fait les prophètes depuis cette époque, y compris le président Monson. Le président Mackay a rapporté dans son discours de clôture qu'en 1923, dans la mission britannique, une instruction générale avait été envoyée aux membres de l'Église. Le président Mackay a dit que la décision était de faire assumer la responsabilité par chaque membre de l'Église afin que dans l'année à venir, 1923, chaque membre soit un missionnaire. Chaque membre un missionnaire. Vous pouvez amener votre mère dans l'Église ou peut-être votre père ou votre collègue de travail. Quelqu'un entendra le bon message de la vérité par votre intermédiaire. Et le président Mackay a continué. Et c'est là le message aujourd'hui. Chaque membre, 1,5 million. Vous pouvez imaginer, on est beaucoup plus aujourd'hui. 1 million, un missionnaire. Lorsqu'on a annoncé en 2002 que l'œuvre missionnaire serait placée sous la responsabilité des évêques, j'étais étonné. Il me semblait qu'ils portaient déjà une charge à la limite de leur force en servant les membres et en dirigeant les organisations de la paroisse. Un évêque que je connaissais n'a pas considéré cela comme un devoir supplémentaire, mais comme une occasion d'unir la paroisse dans une grande cause où chaque membre devenait un missionnaire. Il a appelé un dirigeant de mission de paroisse. Il a lui-même rencontré les missionnaires chaque samedi pour s'informer de leur travail et les encourager et pour savoir comment progresser leurs amis. Le conseiller de la paroisse a trouvé des manières de permettre aux organisations et aux collèges d'utiliser les expériences de service comme préparation missionnaire. Et dans son rôle de juge en Israël, il a aidé les jeunes à ressentir les bénédictions de l'expiation afin qu'ils restent purs. Récemment, je lui ai demandé comment il expliquait l'explosion du nombre de baptêmes de convertis dans sa paroisse et l'augmentation du nombre de jeunes prêts et impatients de porter l'Évangile au monde. Il a dit qu'il ne pensait pas que c'était tant dû au fait que quelqu'un avait accompli son devoir, mais au fait qu'ils étaient devenus un dans leur enthousiasme pour ramener des gens dans la communauté des saints qui leur avaient apporté un tel bonheur. Pour certains, c'était cela et plus. Comme les fils de Mosia, ils avaient ressenti les effets du péché dans leur vie et la guérison merveilleuse de l'expiation au sein de l'Église de Dieu. Par amour et par reconnaissance pour le don que le Sauveur leur avait fait, ils voulaient aider le plus de gens possible à échapper à la tristesse du péché, à ressentir la joie du pardon et à se rassembler avec eux dans la sécurité du royaume de Dieu. C'était l'amour de Dieu et l'amour pour leurs amis et pour leurs voisins qui les unissaient pour servir les gens. Ils désiraient porter l'Évangile à tout le monde dans leur partie du monde. Et ils ont préparé leurs enfants à être dignes d'être appelés au Seigneur, du Seigneur pour enseigner, témoigner et servir dans d'autres parties de sa vigne. Que ce soit dans la grande paroisse où le nouveau diacre accomplira son devoir de prêcher l'Évangile et d'édifier le royaume, ou dans le groupe minuscule lointain où le nouveau prêtre sert, ils seront unis dans leur objectif. Le diacre sera inspiré par l'amour de Dieu à toucher un ami pas encore membre. Il invitera son ami à participer à un projet de service ou une activité dans l'Église et ensuite, il l'invitera avec sa famille à être instruit par les missionnaires. Pour les personnes qui se font baptiser, il sera l'ami dont elles auront besoin. Le prêtre invitera d'autres personnes à se joindre à lui dans le groupe minuscule de saints où il a ressenti l'amour de Dieu et la paix bénie de l'expiation. S'il reste fidèle à son devoir de prêtrise, il verra le groupe devenir une branche. Puis, un pieu de Sion viendra s'installer dans sa ville. Il y aura une paroisse avec un évêque attentionné. Il se pourrait que l'un de ses fils ou de ses petits-fils emmène un jour un serviteur de Dieu sur une colline avoisinante et dise « Ce serait un endroit merveilleux pour un temple. » Je prie pour que, quel que soit l'endroit où nous sommes, quels que soient les devoirs que nous avons dans la prêtrise de Dieu,
nous soyons un dans la cause qui consiste à porter l'Évangile au monde entier et que nous invitions les personnes que nous aimons à se purifier du péché et être heureuses avec nous dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, dont c'est l'Église. Amen.
Frères, nous vous remercions de votre présence ce soir. Nous remercions également le chœur de jeunes adultes de la prêtrise de la musique inspirante qu'il a interprétée. Et remercions toutes les personnes qui ont participé à la préparation de ces sessions. Nous allons maintenant avoir l'honneur d'entendre notre prophète bien-aimé, le président Monson. Après le discours du président Monson, le chœur chantera « Ancien Israël ». Ensuite, Larry M. Gibson, premier conseiller dans le président général des jeunes gens, fera la prière de clôture. Le président Monson.
Deux fois par an, on dirait que ce magnifique centre de conférence nous dit, de sa voix persuasive, « Venez tous, fils de Dieu, dotés de la prêtrise. » Un esprit caractéristique imprègne la réunion générale de prêtrise de l'Église. Ce soir, des milliers de personnes issues de nos rangs sont partout dans le monde en mission, en train de servir le Seigneur. Comme je l'ai mentionné dans mon message de ce matin, nous avons actuellement plus de 63 000 missionnaires sur le terrain et des milliers d'autres qui attendent d'entrer au centre de formation missionnaire ou dont la demande est en cours de traitement. Nous aimons et félicitons ceux qui sont soucieux et désireux de servir. Les Saintes Écritures ne contiennent pas de déclarations plus pertinentes, de responsabilité plus formelle, de commandement plus direct que l'injonction donnée par le Seigneur ressuscité quand il est apparu au Galilée aux 11 disciples. Il a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ce commandement divin, avec la glorieuse promesse qui lui est associée, est notre mot d'ordre aujourd'hui, comme c'était le cas au midi des temps. L'œuvre missionnaire est un trait caractéristique de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Il en a toujours été, et il en sera toujours ainsi. Comme l'a déclaré Joseph Smith, le prophète, après tout ce qui a été dit, le devoir le plus important, le plus grand et le plus important est de prêcher l'Évangile. Dans deux brèves années, tous les missionnaires à plein temps, actuellement en service dans l'armée royale de Dieu, auront terminé leur labeur et seront rentrés dans leur foyer auprès de leurs proches. Ceux qui remplaceront les anciens se trouvent ce soir dans les rangs de la prêtrise d'Aaron de l'Église. Jeunes gens, êtes-vous prêts à répondre? Êtes-vous disposés à œuvrer? Êtes-vous prêts à servir? Il est vrai que l'œuvre missionnaire nécessite que l'on procède à une adaptation radicale de son mode de vie. Elle impose de longues heures de travail, un grand dévouement, un sacrifice désintéressé et des prières ferventes. Le résultat du service missionnaire dévoué est des dividendes de joie éternelle qui se prolongent pendant toute la condition mortelle et dans l'éternité. Le problème est d'être des serviteurs plus productifs dans la vigne du Seigneur. Cela s'applique à nous tous, quel que soit notre âge, pas seulement à ceux qui se préparent à faire une mission à plein temps, car nous avons tous reçu le commandement de prêcher l'Évangile du Christ. Je vais vous proposer une formule qui garantira notre réussite. Premièrement, sondez diligemment les Écritures. Deuxièmement, planifiez votre vie avec des objectifs. Et j'ajouterai, planifiez votre vie quel que soit votre âge. Troisièmement, enseignez la vérité en rendant témoignage. Et quatrièmement, servez le Seigneur avec amour. Examinons chacune de quatre parties de cette formule. Premièrement, sondez diligemment les Écritures. Les Écritures rendent témoignage de Dieu et contiennent les paroles de la vie éternelle. Elles deviennent le fondement de notre message. Les programmes d'études de l'Église mettent l'accent sur les Saintes Écritures et ont été élaborés, organisés à travers l'effort de coordination. On nous invite également à étudier les Écritures tous les jours, personnellement et avec notre famille. Je vais donner un seul passage d'Écriture qui a une application immédiate dans notre vie. Dans le livre de Mormon, au chapitre 17 d'Alma, nous lisons le récit de la joie d'Alma au moment où il retrouve les fils de Mosia et remarque leur constance dans la cause de la vérité. L'histoire nous dit, je cite, « Ils étaient devenus forts dans la connaissance de la vérité, car ils étaient des hommes d'une saine intelligence, et ils avaient sondé diligemment les Écritures afin de connaître la parole de Dieu. » Mais ce n'est pas tout. Ils s'étaient beaucoup livrés à la prière et au jeûne. C'est pourquoi ils avaient l'esprit de prophétie et l'esprit de révélation. Et lorsqu'ils enseignaient, ils enseignaient avec une puissance et une autorité venant de Dieu. Frères, sondez diligemment les Écritures. Deuxièmement, deuxième point de notre formule, planifiez votre vie avec des objectifs. Aucune génération de jeunes n'a sans doute eu à faire des choix d'une aussi grande portée que la génération d'aujourd'hui. Il faut prendre des dispositions pour les études, la mission et le mariage. Pour certains, le service militaire en fait partie. La préparation à la mission commence tôt. En plus d'une préparation spirituelle, un parent sage donnera les moyens à son jeune fils de commencer à épargner pour sa mission. Il serait peut-être bien de l'encourager de bonne heure à apprendre une langue étrangère pour qu'en cas de besoin, ses talents linguistiques soient mis à contribution. Vient ensuite ce jour magnifique où l'évêque et le président de Pieu demandent à ce jeune homme de venir les voir. Il s'assure de sa dignité et remplit sa recommandation pour la mission. Il n'y a aucun autre moment où la famille tout entière attend avec autant d'impatience de facteurs. Et la lettre marquée de l'adresse de retour, 47 East South Temple, Salt Lake City, Utah. La lettre arrive. Le suspense est à son comble. On lit la lettre. Souvent, le lieu d'affectation est éloigné de l'endroit où l'on vit. Cependant, quel que soit le lieu, la réponse du missionnaire prêt et obéissant est le même. Je servirai. Les préparatifs du départ commencent. Jeunes gens, j'espère que vous appréciez les sacrifices que vos parents font de si bon cœur pour que vous puissiez partir, servir. Leur travail vous entretiendra, leur foi vous encouragera, leurs prières vous soutiendront. La mission est une affaire de famille. Bien que des continents et des océans puissent séparer, les cœurs sont unis. Frères, dans la planification que vous faites pour votre vie, avec des objectifs, souvenez-vous que vos occasions missionnaires ne sont pas limitées à la période d'un appel officiel. Ceux d'entre vous qui font leur service militaire peuvent et doivent mettre cette période à profit. Chaque année, nos jeunes hommes en uniforme amènent de nombreuses âmes dans le royaume de Dieu en honorant leur prêtrise, en respectant les commandements de Dieu et en enseignant la parole divine du Seigneur aux autres. Ne négligez pas la chance que vous avez d'être des missionnaires pendant que vous faites vos études. Votre exemple en tant que saint des derniers jours sera regardé, jaugé et souvent suivi. Frères, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, je vous exhorte à planifier votre vie avec des objectifs. Et voici le troisième point de notre formule. Enseignez la vérité en rendant témoignage. Obéissez à l'exhortation de l'apôtre Pierre. Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Élevez votre voix et rendez témoignage de la véritable nature de la divinité. Déclarez votre témoignage du livre de Mormon. Annoncez les glorieuses et magnifiques vérités contenues dans le plan du salut. Quand j'étais président de mission au Canada, voilà plus de 50 ans, un jeune missionnaire qui venait d'un petit village s'était émerveillé en voyant que Toronto était si grand. Physiquement, le missionnaire était petit, mais par son témoignage, il était grand. Peu de temps après son arrivée, son collègue et lui ont sonné à la porte d'Elmer Pollard à Oshawa, dans l'Ontario. Apitoyés par les jeunes hommes qui, un jour de blizzard aveuglant, allaient de maison en maison, Monsieur Pollard a invité les missionnaires à entrer. Ils lui ont présenté leur message. Il n'en a pas saisi l'esprit. À un moment donné, il leur a demandé de partir, de ne pas revenir. Ses dernières paroles aux missionnaires, tandis qu'ils s'éloignaient de la porte, étaient non sans dérision. Je cite, « Ne me dites pas que vous croyez réellement que Joseph Smith est un prophète de Dieu. » La porte s'est refermée. Les missionnaires sont partis. Notre jeune campagnard a dit à son collègue, « Frère, nous n'avons rien répondu à M. Pollard. » Il a dit que nous ne pouvions pas croire que Joseph Smith était un véritable prophète. Retournons-y et rendons-lui témoignage. Au début, le missionnaire plus expérimenté était hésitant. Il a finalement accepté d'accompagner son collègue. La peur au ventre, ils se sont approchés de la porte d'où ils venaient de se faire éjecter. Ils ont frappé. On fait face à M. Pollard. On a eu un moment de panique. Puis, avec une force dictée par l'esprit, notre missionnaire inexpérimenté a dit, « Monsieur Pollard, vous avez dit que nous ne pouvions pas croire que Joseph Smith était un prophète de Dieu. Je vous témoigne que Joseph était bel et bien un prophète. Il a véritablement traduit le Mormon. Il a vu Dieu le Père et Jésus son Fils. Je le sais. » Quelque temps plus tard, M. Pollard, devenu frère Pollard, a déclaré lors d'une réunion de la prêtrise, « Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les paroles que j'avais entendues résonnaient dans mes oreilles. Joseph Smith était un prophète de Dieu. Je le sais. Je le sais. Je le sais. » Le lendemain, j'ai téléphoné aux missionnaires et je leur ai demandé de revenir. Leur message, associé à leur témoignage, a changé ma vie et celle de ma famille. Fin de citation. Frères, enseignez la vérité en rendant témoignage. Le dernier point de notre formule est « Servez le Seigneur avec amour ». Rien ne remplace l'amour. Les missionnaires qui réussissent aiment leurs collègues, leurs dirigeants de mission et les précieuses âmes qu'ils instruisent. À la section 4 des Doctrines et Alliances, le Seigneur fixe ce qui nous qualifie pour l'œuvre du ministère. Examinons quelques versets. Je cite, « Ô vous qui vous embarquez dans le service de Dieu, veillez à le servir de tout votre cœur, de tout votre pouvoir, de tout votre esprit, de toutes vos forces, afin d'être innocent devant Dieu au dernier jour. » Et la foi, l'espérance, la charité et l'amour, avec le seul souci de la gloire de Dieu, vous qualifie pour l'œuvre. Souvenez-vous de la foi, de la vertu, de la connaissance, de la tempérance, de la patience, de la bonté fraternelle, de la divinité, de la charité, de l'humilité, de la diligence. Chacun de vous qui m'entendez aura intérêt à se poser la question. Aujourd'hui, ai-je progressé en foi, en vertu, en connaissance, en piété, en amour? Grâce à votre engagement dévoué dans votre pays ou à l'étranger, les âmes que vous aiderez à sauver pourraient bien être celles que vous aimerez le plus. Il y a de nombreuses années, des amis chers, Craig Sudbury et sa mère Pearl, sont venus à mon bureau avant le départ de Craig pour la mission de Melbourne en Australie. Fred Sudbury, père de Craig, brillait par son absence. 25 ans plus tôt, la mère de Craig avait épousé Fred, qui, lui, ne partageait pas son amour pour l'Église et n'était d'ailleurs pas membre. Craig m'a parlé de l'amour profond et indéfectible qu'il avait pour ses parents et de l'espoir que, d'une manière ou d'une autre, son père serait touché par l'Esprit et ouvrait son cœur à l'Évangile de Jésus-Christ. J'ai prié pour recevoir l'inspiration concernant la manière dont pareil vœu pouvait se réaliser. L'inspiration m'est venue et j'ai dit à Craig, « Sers le Seigneur de tout ton cœur, sois obéissant à ton appel sacré, écris une lettre à tes parents chaque semaine, et de temps en temps, écris personnellement à ton père et dis-lui à quel point tu l'aimes. Dis-lui pourquoi tu es reconnaissant d'être son fils. » Il m'a remercié et sa mère et lui ont quitté mon bureau. 18 mois environ sont passés avant que je ne revoie la mère de Craig, le jour où elle est revenue me voir à mon bureau pour me dire en larmes, « Cela fait presque 2 ans que Craig est parti en mission. Il n'a jamais manqué de nous écrire chaque semaine. Récemment, mon mari, Fred, est venu pour la première fois à une réunion de témoignage. Et ma surprise, ainsi que toutes les personnes présentes, en annonçant qu'il avait pris la décision de devenir membre de l'Église. Il a dit qu'il irait avec moi en Australie retrouver Craig à la fin de sa mission, afin d'être le dernier baptême qu'il ferait en tant que missionnaire à plein temps. Aucun missionnaire n'était plus fier que Craig Sudbury quand, dans la lointaine Australie, il a accompagné son père dans l'eau à la hauteur de la ceinture, a levé le bras droit, angle droit, et a répété ses paroles sacrées. Frédéric Charles Sudbury, ayant reçu l'autorité de Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'amour avait vaincu. Servez le Seigneur avec amour. Frères, puisse chacun de nous sonder diligemment les Écritures, planifier sa vie avec des objectifs, enseigner la vérité en rendant témoignage et servir le Seigneur avec amour. Le parfait berger des âmes, le missionnaire qui a racheté l'humanité nous a donné son assurance divine. Je cite, « Si vous travaillez toute votre vie à appeler ce peuple au repentir et que vous m'amenez ne fût-ce qu'une seule âme, comme votre joie sera grande avec elle dans le royaume de mon Père. » Or, si votre joie est grande avec cette seule âme que vous m'aurez amenée dans le royaume de mon Père, comme elle sera grande si vous m'en amenez beaucoup. Fin de citation. De celui qui a prononcé ces paroles, je rends ce témoignage. Il est le Fils de Dieu, notre Rédempteur et notre Sauveur. Je prie pour que nous répondions toujours à sa douce invitation. Suivez-moi. En son nom sacré, le nom de Jésus-Christ, le Seigneur. Amen.
Come join now with Our beloved and eternal
notre cher et éternel Père céleste, nos cœurs sont remplis, nos esprits ont été édifiés et nos sentiments sont remplis de tendresse. Nous t'exprimons notre amour, notre reconnaissance pour toi, pour ton Fils unique, notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. Nous sommes si reconnaissants pour ton Saint-Esprit qui nous a été accordé durant cette réunion ce soir. Nous te remercions pour la magnifique musique que nous avons écoutée, pour le chœur et pour les musiciens, et nous exprimons notre reconnaissance pour chacun d'entre eux. Nous te remercions pour ces merveilleux frères, pour ces apôtres qui nous ont enseigné, pour leurs conseils. Père, nous avons entendu ce qu'ils nous ont enseigné. Nous avons eu des inspirations personnelles et des sentiments, et nous te demandons de nous aider à avoir le désir de les mettre en pratique, car nous avons véritablement le désir de faire ce que tu nous demandes de faire. Nous te remercions pour tous les frères de la prêtrise partout dans le monde et pour ce sentiment de proximité que nous avons, et de nous te prions de nous bénir individuellement afin de nous aider à servir dans nos ministères personnels, de nous aider à devenir de véritables disciples de ton Fils, notre Sauveur. Combien nous aimons notre prophète Thomas Monson. Nous te prions de bien vouloir continuer à le bénir, le soutenir, le bénir lui, sa femme et sa famille, ainsi que ses conseillers et ce merveilleux collège des 12 apôtres. Nous sommes si reconnaissants pour eux et nous te demandons de les bénir dans toutes les responsabilités qui reposent sur leurs épaules. Père, nous te remercions pour ces collèges qui réalisent ton œuvre partout dans le monde. Et nous te demandons de les bénir, de les aider à s'élever à la hauteur de tes attentes. Nous te prions pour toutes ces choses et nous le faisons au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.